La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Et non, 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 nous n'allons pas fêter la capitulation allemande,
oh,
ni la belle victoire de
dommage.
La France, celle-là même qui a collaboré avec le régime nazi de Vichy jusqu'à Bordeaux. Et non, parce que pendant que les Français se réjouissent en Algérie, l'armée française commet un des pires massacres de son histoire coloniale. On a donc voulu vous redire ce soir un peu cette histoire oubliée que les manuels de l'éducation nationale et ses profs aux ordres éludent le plus souvent. On a voulu aussi rappeler que si la guerre était finie pour les uns, elle devait prendre une autre forme pour les autres et que nous, on est plutôt du côté de cela. Alors on va revenir un peu plus sans détail plus tard sur le déroulé de ce 8 mai 45 en Algérie pour dresser un tableau rapide. En fait, à l'annonce de la capitulation allemande, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour rappeler leur désir d'indépendance et avec l'espoir que la fin de cette guerre leur ouvre de nouvelles perspectives de libération. Et c'est dans l'Est algérien, et particulièrement dans les villes de Sétif, Guelma et Kerata, que ces manifestations spontanées seront le plus durement réprimées. Donc les chiffres sont très disparates, hein, mais on situe vraisemblablement autour de 40 000 morts pour ces quelques jours de mai 45, où les Algériens ont cru pouvoir partager la victoire. On va écouter tout de suite Kateb Yassine nous parler du contexte dans lequel interviennent ces massacres, et donc... Tu vas nous parler de Kateb Yassine.
Kateb Yassine, oui, introduire un peu ce bonhomme, puisque c'est quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de bien en tout cas. C'était un romancier, dramaturge, visionnaire algérien, et avant tout un poète rebelle. Il est né à Constantine, en Algérie, en 1929, et en 1945, et notamment en mai 1945, il a 15 ans, et il participe au soulèvement populaire du Constantinois pour l'indépendance. Il est arrêté à Sétif et incarcéré durant 3 mois à la suite de la répression. Et cette date du 8 mai 45 marquera à tout jamais l'existence, l'engagement et l'écriture de Kateb Yassine qui poursuivra notamment en France son engagement politique contre la colonisation, le néocolonialisme et la dictature post-indépendance qui n'a cessé de spolier le peuple algérien donc jusqu'à 1989, date à laquelle il décède à Grenoble. Donc on écoute Kateb Yassine sur le contexte algérien en 1945.
La guerre, c'est le rationnement, tout était rationné, tout était au marché noir, il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire la famine. Moi j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à Sétif dans la rue. Et il était à moitié nu parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, des épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière. Presque toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement pour nous. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux.
Alors, on va, avant de revenir sur ces événements du 8 mai 1945, faire un bref retour historique sur ce qu'est l'Algérie. Car pour comprendre ce 8 mai 45, pour comprendre cette dite guerre d'Algérie qui ne commence finalement pas en 1954, avec ces échanges de coups de feu et l'armée française, tout commence, la résistance armée du peuple algérien commence dès le début de la colonisation française, lors du débarquement des troupes royalistes du monarque absolu Charles X, le frangin de Louis XVI pour la petite histoire, en 1830. Cette première grande phase de résistance menée par un certain Abdelkader, unificateur des forces algériennes, ne s'achève qu'en 1847, avec la reddition de ce dernier, quand les dernières poches de résistance, notamment dans les montagnes kabyles, sont écrasées dans le sang. En 1848, l'Algérie est officiellement déclarée territoire français. Depuis lors, les insurrections, locales ou régionales, n'ont jamais cessé. De 1850 à 1870, par exemple, de nombreuses insurrections éclatent dans les Aurès et en Kabylie, réprimées dans le sang. La famine ravage l'Algérie entre 1866 et 1868.
Famine organisée par l'armée française.
En 1871, c'est le début de la révolte kabyle des frères Mokrani en mars, écrasée en mai. Près de 500 000 hectares sont confisqués aux Algériens et attribués aux colons. Alors, dans les années 1890, il y a un certain Jules Ferry qui fait adopter le code de l'indigénat et qui instaure un régime juridique spécifique pour les Algériens musulmans, et l'Algérie est entièrement intégrée à la France. La nationalité française est accordée aux descendants européens présents en Algérie, mais pas aux musulmans. En 1912, les musulmans sont astreints au service militaire. Entre 1914 et 1918, 25 000 Algériens musulmans meurent pour les beaux yeux de la France, pendant qu'en 1916, Constantine se révolte. Dans les années 20, dans les années 30, des mouvements indépendantistes se structurent, notamment menés par un certain Messali Hadj, et on reviendra sur ce bonhomme, tous interdits et dissous par les gouvernements français, y compris par un certain Front Populaire. C'est dans ce contexte que débute la Deuxième Guerre mondiale.
Et comme on l'a entendu dans l'extrait donc, de Kateb Yassine, le quotidien des Algériens au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est la famine, le chômage et la misère. Donc en plus de la guerre et de la sécheresse, les colons sont appropriés les meilleures terres. Donc les récoltes déjà maigres sont de toute façon pas redistribuées. Le contexte est extrêmement tendu, il n'y a aucune place pour les velléités indépendantistes au regard de la situation internationale. Les migrations vers la métropole sont interdites, hein, on ne va quand même pas accueillir la misère qu'on sème. Et en Algérie, la pénurie est encore plus importante qu'en France, et la disette, elle touche plus particulièrement les populations musulmanes. Dès 1941, il y a des mutineries de soldats algériens qui sont également violemment réprimées. Dans la population, si en France la collaboration est plutôt bien assumée, en réalité la population algérienne, elle refusera bien souvent de livrer les juifs d'Algérie. Et environ 150 000 Algériens s'engageront aux côtés du général de Gaulle pour les campagnes d'Italie et d'Allemagne, c'est-à-dire pour sauver la France du péril fasciste. Alors comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale, c'est les populations colonisées qui vont servir de chair à canon pour les besoins de l'Empire. Empire qui poursuit pendant ces guerres-là son œuvre de pillage tranquillement. Et les premières victimes, donc, toujours seront les colonies. Alors au retour de la guerre, ce 8 mai 45, il s'agit en fait pour le général de Gaulle de montrer, dès le premier jour de paix, de montrer que les liens coloniaux ne changeront pas, que les soldats algériens rescapés se sont battus pour la liberté des autres et pas du tout pour la leur. Le jour est parfait pour rappeler à l'ordre celles et ceux qui auraient cru à un vent de liberté. Et
on surtout que les Américains, qui sont les vrais vainqueurs, annonçaient à tout le monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y avait ça aussi.
Et voilà, et du coup, Kateb Yassine nous parle un peu mieux de son expérience personnelle de cette sordide journée, puisqu'il était dans les rues de Sétif, adolescent, au moment de cette répression.
Kateb Yassine, le 8 mai 1945, vous êtes à Sétif.
Oui, ce sont des événements qui ont eu lieu à Sétif et à Guelma, c'est-à-dire deux villes de l'Est algérien. Et ça a été un massacre, un véritable massacre, qui n'a pas manqué de laisser des traces. D'autant plus que pour moi, j'ai été touché dans ces deux villes. Ça s'est produit, bon, j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais enfin bon, grosso modo, c'était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis. Donc, c'était un grand événement, c'était la fête. On a entendu sonner les cloches, et puis tout de suite la rumeur s'est répandue que le lendemain on serait libre. C'était un jour de liberté. Et donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation officielle prévue au centre de la ville, et il y avait une manifestation populaire. Donc, c'était un jour de grande espérance, dans un sens, pour les Algériens. C'était à Sétif, c'était jour de marché, c'était un mardi, et il y avait une foule énorme. Bon, moi j'ai vu venir le cortège. Au début, il y avait les scouts, puis après, des étudiants, des militants. j'ai reconnu parmi eux des copains de classe. Bon, alors ils m'ont fait signe et je me suis joint au cortège sans trop savoir ce que ça signifiait. Et puis, tout de suite, ça a été les coups de feu. Bon. Alors les coups de feu, la panique, parce que cette foule énorme qui reflue, j'ai une petite fille qui a été écrasée devant moi, là, c'était vraiment terrible. Parce qu'il y a eu vraiment la panique, les gens voulaient se sauver, dans tous les sens. Et puis, bon, il fallait que je rentre chez moi, puisque j'habitais dans un village à 45 km de là. Bon, donc je suis monté là, à l'avant du car, et j'ai vu, alors à ce moment-là, des choses terribles, parce que le peuple venait de toutes parts. J'ai vu ça comme vraiment comme une fourmilière. La terre est devenue une véritable fourmilière. Vraiment, je me demandais d'où venaient tous ces gens. Comment j'avais pu ne pas les voir avant. Mais on avait l'impression qu'ils sortaient de la terre. C'est de toutes parts. Ça grouillait de partout. Et puis, il y avait des rumeurs folles. Je ne sais pas, certains disaient que les Turcs avaient débarqué à Bougie. Je ne sais pas, moi. D'autres disaient que, ça y est, que toute l'Algérie s'était libérée. Enfin, on racontait un tas d'histoires. Et puis, il y avait une grande fièvre, naturellement.
Alors, on va revenir un petit peu en détail hein, après cet extrait de Kateb Yacine qui a vécu du haut de ses 15 ans, presque 16, cette journée à Sétif. Eh bien, ce qui s'est passé à Sétif, Guelma, à Karata, mais aussi à Constantine et les jours qui suivent dans d'autres villages notamment. Hein, revenons-y et contextualisons un peu. En avril 1945, Messali Hadj, donc le chef hein, des indépendantistes en Algérie, est enlevé puis déporté, ce qui prépare l'incendie populaire. Exaspérés par ce coup de force contre leur leader, les indépendantistes du PPA, le Parti du Peuple Algérien notamment, font la libération de Messali Hadj un objectif majeur et décident de défiler à part le 1er mai déjà, hein, sans la CGT et les PC français et algériens qui restent muets sur la question nationale. Et déjà ce 1er mai à Oran et à Alger, la police et des Européens tirent sur les cortèges indépendantistes, faisant plusieurs morts, des blessés, de très nombreuses administrations. Mais la mobilisation ne lâche pas, et donc ce 8 mai, le Nord constantinois s'apprête à célébrer la victoire des Alliés, tout en rappelant à la France les revendications indépendantistes, et ce, par des manifs pacifistes. Le mot d'ordre était très clair, pas de mot d'ordre armé, pas de mot d'ordre insurrectionnel. À Sétif, une foule d'au moins 10 000 personnes défile dès le matin, pacifiquement et non armée. Hein, il est bien dit aux paysans qui sont venus des alentours de déposer leurs armes. Ils scandent des slogans de type « Indépendance »,« Libérer Messali Hadj », »,« L'Algérie est à nous » et osent sortir un drapeau du PPA, le Parti du Peuple Algérien, futur drapeau algérien. C'est là que tout s'embrase, même si on le verra après, il y a bien eu une préparation de ce massacre, hein, mais un policier tire sur ce porteur de drapeau, rapidement suivi par des coups de feu venus des Européens attablés sur une terrasse de café ou même de leur balcon. Et surgit alors cette fameuse préparation du massacre des Algériens. Une milice d'Européens est formée et armée. La police, l'armée, la gendarmerie sont déployées. La chasse à l'homme et la femme musulmane commencent et durent plusieurs jours à Sétif. À Guelma, la situation est similaire. Une manif pacifiste dans l'après-midi, un drapeau algérien qui est déployé, l'ordre est donné de tirer sur le porteur et des milices meurtrières dirigées par le sous-préfet commencent leurs tueries et leurs arrestations massives. Les civils européens et la police se livrent déjà dès 8 mai à des exécutions massives et à des représailles collectives. Et pour empêcher toute enquête, ils rouvrent des charnières et incinèrent les cadavres dans des fours à chaux. Et oui, car les cadavres, ça laisse des traces. À Karata, c'est un peu différent. Proche de Sétif, petite ville, petit village, il n'y a pas de défilé de prévu dans ce petit village tranquille. Mais en fin de matinée, on y apprend les tueries de Sétif. Les Européens prennent peur et s'arment, tandis que des habitants de Karata parcourent tous les villages alentours en appelant la population à se rassembler à Karata. 10 000 personnes s'y retrouvent la nuit et manifestent, révoltées, déchaînées. Ici aussi, l'armée française et les Européens tuent et massacrent. Suite aux assassinats, dans ces trois villes notamment, des groupes d'Algériens ripostent en tuant des Européens. S'ensuit une répression extrêmement violente dans les rues et les quartiers de Sétif et Guelma, alors que la presse française parle abusivement de terrorisme algérien. Pendant une semaine, du 8 mai 45, pendant une semaine, l'armée française, renforcée par des avions et des chars, et sous les ordres directs du gouvernement français composé de membres du PS et du PC notamment, se déchaîne sur les populations de la région et tue sans distinction. Cette extermination fera en une semaine 45 000 morts.
Et après ces épisodes sanglants, il y aura aussi d'autres journées de mobilisation où les exactions continueront pour maintenir l'ordre colonial. Alors De Gaulle, qui est particulièrement attaché à cette colonie, il va tout mettre en œuvre pour faire cesser la contestation. Donc à la répression sanglante s'ajoutera progressivement une politique d'effort social pour tenter de marginaliser les indépendantistes en offrant notamment des rénovations urbaines, des constructions d'hôpitaux et une aide humanitaire. Et donc c'est sous la présidence du gouverneur Yves Châtaigniaud que seront entrepris ces différents travaux qui visent à pacifier les velléités indépendantistes des Algériens. On écoute tout de suite un extrait des actualités un an après le massacre de Sétif.
Dans Sétif, rendu au calme, au travail, à la paix française, dans Sétif, où se sont effacées les traces des regrettables incidents de l'an dernier, le gouverneur général Yves Châtaigniaud est venu montrer que rien ne subsiste dans l'esprit français de ce qui fut l'erreur d'une journée. Sétif, depuis, a vu grandir l'œuvre française. C'est ce qu'a constaté le gouverneur en visitant l'école professionnelle où les jeunes musulmans s'appliquent à la connaissance des techniques modernes. C'est ce qu'il a constaté aussi en visitant l'hôpital de Sétif et en y décorant une infirmière musulmane, Mademoiselle Messaï, qui se distingua particulièrement lors du tremblement de terre au Hodna. Le gouverneur général a rendu hommage à l'esprit de fraternité. C'est de cet esprit.
Alors, on a coupé un peu sèchement, hein, mais pour rappel, l'ORTF dépend directement du général de Gaulle et est un outil de propagande de l'État français. On l'a bien vu sur ce court extrait, ça permet donc à l'État français de faire passer ce que bon lui semble. Alors, de ces massacres, ces massacres vont laisser dans la société algérienne une cicatrice jamais refermée et une haine profonde envers l'armée française.
Tu m'étonnes.
Justifié.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre, effectivement. Mais également des traces au sein de l'unité du mouvement nationaliste et indépendantiste. Certains considérant effectivement que le PPA, le Parti du Peuple Algérien, et ses dirigeants avaient joué les apprentis sorciers. C'est la fin de l'union du camp nationaliste en Algérie. Et entre 1946 et 1954, va se structurer une organisation paramilitaire à l'échelle nationale. Alors qu'en 1952, les forces de l'ordre tirent à nouveau sur la foule à Orléansville. Le FLN, le Front de Libération Nationale, organisation clandestine très structurée et armée, lance une insurrection armée donc sur plusieurs points du territoire en novembre 1954, déclenchant côté français une réaction dite de maintien de l'ordre, permettant des exactions toutes plus terribles les unes que les autres, et côté algérien, 8 années de guérilla qui déboucheront sur l'indépendance en 1962.
Et qui verra naître aussi une génération de révolutionnaires algériens particulièrement intéressante. On va écouter justement une chanson du groupe Debza. Alors Debza, ça veut dire point. C'est une troupe de théâtre engagée qui a été créée en 79 par des étudiants d'Alger et qui dérive de l'association Action Culturelle des Travailleurs, elle-même créée par le grand Katabi Yassine. Donc la troupe Debza va créer de nombreuses pièces tracts qu'elle ira représenter un peu partout en Algérie, souvent sans rémunération et dans des endroits un peu reculés. Nombre des membres de la troupe vont connaître la prison. Et la chanson qu'on écoute s'intitule Bnik Sourek et c'est un peu l'hymne de la troupe d'Ebza. وعرفنا مسبب اشقنا وعرفنا رحنا تلاقينا Alors du coup, c'est Ebnik Sourek de la troupe d'Ebza, donc qui est une troupe algérienne, mais c'est une reprise d'un poème de l'Égyptien Ahmed Fouad Najm qu'il a écrit en prison en 73 et qui sera aussi un chant très populaire du mouvement étudiant égyptien et dont on va lire les paroles.
Donc cool. traduite hein, évidemment. Donc
oui, tu peux chanter.
Élève, non. Élève tes palais. Tu peux élever tes palais sur nos champs. Avec notre labeur et le travail de nos mains, tu peux installer des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins. Tu peux lâcher tes chiens dans les rues et refermer sur nous tes prisons. Tu peux nous voler notre sommeil. Nous avons dormi trop longtemps. Tu peux nous accabler de douleur. Nous avons été au bout de la souffrance. À présent, nous savons qui cause nos blessures. Nous nous sommes reconnus et nous sommes réunis. Ouvriers, paysans, étudiants, notre heure a sonné et nous nous sommes engagés sur un chemin sans retour. La victoire est à la portée de nos mains, la victoire pointe à l'horizon de nos yeux.
Voilà, du coup pour conclure son transition, donc voilà, 72 ans après les faits, l'État français reconnaît que timidement ces faits, hein, que ce soit pour les massacres du mois de mai 45 ou pour l'ensemble des crimes commis par la France lors de la guerre d'Algérie, bon, aussi pour l'ensemble des crimes commis par la France lors des guerres impérialistes qu'elle mène partout dans le monde. Exactement. Bref, le sujet encore brûlant, on l'a bien vu avec Macron qui a fait machine arrière après avoir qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Alors on se fait aucune illusion, hein, il était en voyage en Algérie, il entendait probablement se saisir de cette opportunité pour récolter quelques voix supplémentaires. Effectivement, au jeu de l'opportunisme politique, il est particulièrement efficace. Mais face à la levée de boucliers de la droite et de l'extrême droite, il a dû revenir sur ses paroles, je le cite. Donc je dis aujourd'hui à chacun et chacune, dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime. Parce que la République, elle doit aimer chacun. Donc, alors Macron en gaulliste, ça fait toujours marrer. Mais ça nous montre surtout qu'on n'est pas prêt de changer cette histoire-là de la France, que notre nouveau président, pas plus que les précédents, reconnaîtra les horreurs des guerres impérialistes, que ces guerres-là ont de beaux jours devant elles, surtout avec un président qui est l'ami des patrons du CAC 40.
Et qui a promis qu'il intensifierait les frappes en Syrie.
Exactement. Mais, et puis qui placera ses amis dans nos anciennes colonies.
La défense des intérêts de ses amis dans
exactement.
Les anciennes colonies.
C'était là. On doute pas que Macron saura les gâter et que...
Et que c'est un bon descendant de De Gaulle, il n'y a pas de souci, vu ce qu'a fait De Gaulle en Algérie notamment et ailleurs. On se doute pas que Macron fera beaucoup mieux.
Je comprends pas que les gens ils se disent gaullistes, quoi.
Ouais, bah, surtout quand tu vois ça.
Ils ont comparé Macron à Napoléon, ils ont fait « Ah bah oui, tiens, il est jeune, c'est un nouveau... »
Ah oui, c'est vrai, ça a eu lieu, ouais.
Enfin voilà, 8 mai 45, c'est d'abord et surtout cette histoire-là et l'histoire de l'impérialisme français.
On peut déplorer que c'est pas encore une histoire populaire et que c'est un drame qui est équivalent à celui de la Commune de Paris en termes de répression et de mort. Et que, bah voilà, c'est pas, il n'y a pas assez de publicité qui est faite.
Et qu'encore une fois, pour ce coup-là encore, on n'oublie pas et on ne pardonne pas.
Voilà, et on peut revendiquer très sincèrement que le 8 mai reste férié, mais pour une autre raison. Quoi.
C'est vrai que la semaine dernière, on a dit qu'on n'oubliait pas pour Mac Mahon, mais De Gaulle non plus, on n'oublie pas.
Et surtout, et que le 8 mai 45 soit férié pour célébrer les morts de cette île.
Tu sais, si à chaque fois qu'il y a des morts, on demande des jours fériés, on va plus jamais bosser.
Justement.
Voilà.
Précisément.
En tout cas, il y a urgence de reconnaître les crimes de la France en Algérie. Mm. Et le 8 mai 45 pourrait leur être dédié, ça serait super.